Nous parlons ce matin sur le Christ dans la tentation. Nous connaissons ce combat quotidien dont on n'a pas toujours conscience, la tentation. Les plus belles choses peuvent apporter des tentations, les plus mauvaises choses apportent aussi des tentations. La joie, la souffrance, tout est un moyen de nous tenter si on ne garde pas nos yeux tournés vers le Seigneur. Le premier homme a été tenté jusqu'au dernier, et Jésus aussi. Alors je vais lire avec vous Jésus dans la tentation, Matthieu chapitre 4. Vous connaissez bien ce passage au désert. La tentation, on est toujours dans le désert. Mais le désert n'est pas forcément une tentation. Matthieu 4, verset 1er. C'est après le baptême de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà la réponse de Jésus. Le diable le transporta dans la ville sainte, Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore, moi aussi j'ai envie de dire encore, sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de lui et le servirent. Amen. Avant, je vous l'ai dit, il y a eu le baptême. Le baptême qui représente pour nous la mort et la résurrection. Le baptisé est prêt à 99%. On met dans le baptême son ancienne vie, on met dans le baptême ses péchés pour commencer une nouvelle vie. Mais Jésus n'a pas de péché à déposer. Son baptême représente plutôt sa mort, où il a pris les péchés des hommes. Il ne les a pas déposés, ses péchés, il est sans péché, mais il s'est chargé des péchés des hommes. Et quand il est remonté de l'eau à son baptême, le ciel s'est ouvert et la voix du Père s'est fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu le présente au monde. Et je pense que lorsque Jésus est descendu dans la mort et qu'il est ressuscité, je crois vraiment que le ciel s'est ouvert pour nous. Dieu est accessible. On peut le prier, l'appeler, le chercher. Le ciel n'est plus fermé. Le ciel est ouvert et la voix de Dieu parle. Chaque fois que je lis la Bible, Dieu parle. Il nous parle. et nous pouvons le suivre, il n'y a plus de mur entre lui et nous. Mais nous arrivons dans la tentation, où le Christ va continuer de descendre dans l'épreuve des hommes, le combat des êtres humains. Et il va remonter avec une victoire pour nous dire « Je serai avec vous, je suis avec vous ». 40 jours à jeûner, à prier. 40 jours qui nous rappellent les 40 années d'Israël dans le désert, où ils ont murmuré, mais Dieu était là. Où ils ont été tentés, mais Dieu était là. 40 années de désert. Et ces 40 jours représentent toute l'histoire de notre vie, où nous sommes sans cesse livrés à des choix, à prendre des décisions, à faire les bons choix. Et ces 40 jours représentent la vie de Jésus aussi, où il a été tenté en toute chose, pas continuellement. Mais le diable revenait à des occasions favorables, comme chez nous. Il y a des moments où nous sommes plus vulnérables. On a laissé ouvertes les portes de notre esprit, les portes de notre cœur, les portes de la maison, et le diable s'infiltre. Dans toutes les tentations, on a ce désir de faire quelque chose de plus important que Dieu. On a le désir de faire quelque chose qui dépasse ce que nous recevons. Il faut aller plus loin. On n'est pas satisfait. On est un peu en révolte. C'est ça la tentation. Première tentation, ordonne que ces pierres deviennent des pains. La faim. La faim de Jésus. Et le diable s'en est servi pour lui lancer une provocation. Le diable nous provoque. Si tu es fils de Dieu, il lui demande des preuves. On a toujours demandé des preuves à Jésus de son ministère. Encore aujourd'hui, si Dieu est là, si Dieu est avec nous, si Dieu est toujours là, on a besoin, on est tenté, on n'a pas besoin, on est tenté de demander des preuves. Et la preuve que Jésus, que le diable demande à Jésus, c'est du pain. Qu'il réponde au problème de la faim dans le monde. Moïse a donné la manne dans le désert. Ben, c'est Dieu qui l'a donné, par Moïse. Alors il dit à Jésus, transforme ce désert en pain d'épices et les pierres en gâteaux, pour qu'on voit que tu es vraiment le Christ, comme tu le dis. L'Église a toujours eu cette tentation. Cette provocation, et le diable sans cesse nous dit, si tu es l'Église du Christ, occupe-toi de ces choses, donne du pain, arrête les guerres. S'il y avait des guerres, s'il y a des guerres, c'est que Dieu n'est pas là, c'est que Dieu ne nous secourt pas. Provocation. Si Dieu est avec toi, tu devrais être béni, tu devrais être plus heureux, tu devrais être plus fort. Provocation. Ne pas se laisser séduire par son cœur. Provocation difficile. Quand il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, alors qu'aujourd'hui c'est un grand problème que la faim dans le monde. Des millions de personnes vont mourir prochainement de faim en Afrique. Jésus a répondu au problème de la faim en multipliant les pains. C'était comme un signe qu'il allait s'occuper du monde. Mais quand le diable lui a dit ça, il a répondu, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Et Jésus, il a fait passer la parole de Dieu plus haute que sa nourriture. Il a mis la priorité. Gardons-nous les priorités. Est-ce que la parole de Dieu est lue en priorité dans nos maisons chaque jour? Est-ce que dans nos choix à faire, est-ce que dans nos difficultés, est-ce que nous lisons la Bible en disant « Que me conseilles-tu? Que me recommandes-tu? Montre-moi ta volonté. Parle, ton serviteur écoute. » Deuxième tentation, mettre Dieu à l'épreuve. Dans toute tentation, il y a quelque chose de réel de la vie. Je ne suis pas tenté d'être le président de la République de Chine. C'est hors de ma vie. Mais on peut être tenté sur des choses courantes de notre vie. Et le diable va dire à Jésus, il va réciter à Jésus le psaume 91, qui est un psaume qui nous parle de la protection de Dieu sur les enfants de Dieu. Et le diable va citer cette parole dans le temple, là où il y a la protection, dans la ville sainte. Il va citer cette parole. Eh bien, si tu es le Fils de Dieu, puisque tu es protégé, puisque tu es dans le temple, puisque tu es dans la ville de Jérusalem, alors Dieu va te garder dans tout ce que tu vas faire. Tu peux te jeter du haut du temple. Dieu va te garder. Menteur. Le diable semble lui dire, dans tout ce que tu fais, Dieu te garde. C'est faux. Si nous sortons des sentiers du Seigneur, Dieu ne nous garde pas. Si nous commettons le péché, Dieu ne nous garde pas dans le péché. C'est faux. Il a pris la parole de Dieu et il l'a interprétée à sa façon. On m'a déjà dit, oui, j'ai péché, mais Dieu était avec moi. Ça, c'est la voix de Satan. J'ai pensé mal, mais Dieu était là. Si nous interprétons la Bible n'importe comment, nous allons nous faire un Dieu qui ne sera pas le vrai Dieu, un Dieu à notre image, un Dieu qui tolère, qui accepte le mal. Jésus est provoqué pour qu'il se jette du haut du temple. Il faisait 30 mètres le temple, pour qu'il se jette dans les airs et qu'il soit récupéré par les anges, soutenu par les anges devant toute la ville. Et là, Seigneur, si tu te jettes du haut du temple, alors ils verront que tu es vraiment le Christ et ils seront convaincus automatiquement, ils auront le salut automatiquement. Là, il n'y aura plus de doute. Menteur. Satan est un menteur. Dans toutes ces tentations, il y a quelque chose de corrompu. Ça veut dire que si les gens sont convertis automatiquement, il n'y a plus la transformation intérieure. Il n'y a plus, c'est inutile, plus besoin de la mort du Christ, plus besoin de la prédication, plus besoin de la prière, plus besoin de la sanctification. Tout se fait là. En un instant, on croit, c'est réglé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et le Christ n'a jamais voulu séduire en faisant de grands prodiges spectaculaires pour que tout le monde dise « Ah, ben c'est lui, c'est fini, c'est réglé. » Le Christ cherche notre conscience, il cherche à déposer en nous sa parole, à l'enraciner petit à petit, pour qu'on en soit transformé et qu'on marche chaque jour. C'est un travail lent, mais qui fait qui porte son fruit. Dans cette tentation, Jésus nous montre les chemins interdits. Jésus ne manipule pas les gens. Parce que sauter du haut du temple, être récupéré par des anges, c'est de la manipulation. Je n'ose pas dire de la magie. Il n'utilise pas ce moyen, il n'utilise pas le merveilleux. Oh, c'est beau, c'est extraordinaire. Il n'utilise pas ces moyens, mais au contraire, il veut parler au cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Regardez ce combat entre Jésus et le diable qui va se terminer par une parole que Jésus va reprendre de la Bible. C'est un combat de parole à parole, entre les paroles de la Bible et les paroles de la Bible, des paroles mal interprétées et la parole que Jésus va employer, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ce qui veut dire tu ne l'obligeras pas, tu ne le contraindras pas. On veut des preuves, on voudrait voir, on voudrait contrôler comme si c'était une marchandise, une machine qu'il faut vérifier. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où seul compte l'expérience, c'est-à-dire ce qu'on peut mesurer, ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut voir. Ça, c'est un courant de notre époque. Mais permettez-moi de vous rappeler que dans la vie avec Dieu, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne mesure pas, qu'on ne peut pas voir. Il y a un côté caché en Dieu que notre intelligence ne peut pas percevoir. Et nous n'avons pas à sonder ce côté. Il m'a dit que mes péchés sont effacés. Parfois, on pourrait être tenté de douter, mais je ne ressens pas, je ne vois pas. Il faut que nous le croyions, parce que ce que le Seigneur dit, c'est la vérité. Amen. Il n'est pas sauté, il n'a pas sauté du haut du temple. Mais il a sauté dans les profondeurs de la mort pour nos péchés. Et là, il a pu dire au moment de sa mort, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il a été pris par le Père. Pour nous montrer que quand nous obéissons au Seigneur, quand nous sommes ses enfants, et que nous traversons des chemins de difficultés, de grandes difficultés, eh bien le Seigneur nous tient dans sa main et il nous garde. Si nous sortons de ce chemin, alors là, il n'y a plus d'assurance. Le Seigneur ne va pas dans nos chemins de tentation où nous choisissons le mal. La dernière tentation, mais il y en avait beaucoup d'autres, mais ça résume toutes les tentations. Le Seigneur a été porté par le diable, c'est mystérieux. Je n'ai pas bien compris tout, mais je ne suis pas appelé à tout comprendre. Sur une haute montagne, on connaît les montagnes d'Israël, elles ne sont pas très hautes, ce n'est pas l'Everest. Et même si c'était l'Everest, il était sur une montagne où il a vu tous les royaumes de la terre. Royaume de France, royaume du Brésil, royaume d'Angleterre. Comment a-t-il pu voir tous les royaumes? On s'est demandé si le diable ne lui avait pas donné une vision, mais c'est un mystère. Restons à ce qui est écrit. Mais le Christ lui a dit, « Je te propose, si tu te prosternes devant moi pour me reconnaître comme ton maître et ton Dieu. » Satan qui dit ça. « Si tu te prosternes devant moi, je te donne ces royaumes. » Ce qui veut dire « tu es le roi ». Mais Jésus, il est le roi. Il est déjà le roi. Puisqu'il a dit « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné sur les corps, les consciences, les âmes. Tout pouvoir lui a été donné sur nous. » Et pour que le Christ règne, il faut d'abord qu'il passe, pas sur la haute montagne où il voit tout, mais d'abord une petite colline, c'est le commencement, c'est le chemin, la colline du Golgotha. Et là, il faut qu'il donne sa vie, qu'il soit abandonné sur la croix. Ça, c'est le chemin. Rappelez-vous, Jacques et Jean, les apôtres, quand ils ont dit à Jésus, quelques heures avant la mort de Jésus, ils ont dit... Permets que nous soyons assis, un à ta gauche, un à ta droite, dans ton royaume. Ça, ils vont loin. Permets qu'on soit les premiers ministres de ton roi, de ton règne éternel. Ils ont oublié qu'avant de monter d'abord, il faut prendre le chemin de la croix. Il faut porter sa croix. C'est un chemin difficile. Et les apôtres ont pris ce chemin. Il n'y a pas de couronne sans combat, il n'y a pas de gloire sans obéissance et sans souffrance. Et Jésus a répondu à Satan. Mais quand même, pour conclure, dites-moi, quelles sont ces splendeurs que Satan a montrées à Jésus? Qu'est-ce qu'il lui a montré pour que lui proposer d'être le roi d'un tel monde? Le mot exact dans la langue des apôtres, doxa, signifie apparence. Satan lui a montré les apparences. Il lui a montré une splendeur apparente, un pouvoir apparent, une richesse apparente qui ne dure pas. C'est le menteur. Il faut que nous soyons sur nos gardes. Il lui a montré ce qui allait disparaître. Il ne lui a pas dit « Je te donne ces royaumes où il y a des malades à guérir, où il y a des gens à réconforter. Je te donne ce monde où il y a tellement de pécheurs à pardonner, tellement de jeunes à réconforter. » Il ne lui a pas montré la détresse de ce monde. Il lui a montré une apparence, une surface, le clinquant. Et le clinquant est toujours faux. Il a voulu tromper Jésus. Mais le royaume du Christ ne repose pas sur des apparences, sur du clinquant, sur du merveilleux, sur du mensonge, sur le passager. Le royaume du Christ repose sur un grand amour qui nous rachètera et nous délivrera de la mort au dernier jour. Toujours, l'Évangile, ça a été le chemin de l'Évangile, que tout disciple porte sa croix, que tout disciple travaille dans le secret son cœur et prie et vive la maturation, vive la rencontre quotidienne avec son maître et sa parole. Mais quand même, c'est une tentation sérieuse quand même. Puisque Jésus, on a voulu le détacher de son Père pour en faire un serviteur de Satan. Un serviteur de Satan. Et si le diable a été si loin, c'est qu'avec nous, je pense qu'il peut faire briller sous nos yeux des illusions, des mensonges, pour qu'on puisse aller dans être un nouveau Salomon, qui finalement avait un petit peu tout à lui, mais qui avait perdu l'essentiel. Et le diable est capable de faire briller sous nos yeux des mensonges. Alors, le Seigneur répond à Satan, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. » Je pense qu'on ne peut pas adorer Dieu vraiment sans le servir. Et je pense qu'on ne peut pas servir Dieu vraiment sans l'adorer. L'adorer, ce n'est pas crier, l'adorer c'est cette spontanéité devant la rencontre avec Dieu. « Oh Seigneur, on est convaincu. » On est terrassé, on est en larmes, on est en joie, on est en paix, on est en sécurité, on est bien, on est enfant de Dieu, on est dans l'amour du Père. Amen. Jésus aurait pu accomplir tous ces miracles, il pouvait être le roi du monde un peu avant l'heure, il aurait pu fabriquer des pains, il aurait pu se jeter du haut du temple. Mais pour Jésus, ce qui compte, c'est l'obéissance à son Père. Seigneur, ferme nos yeux sur l'illusion qui pourrait nous écarter de ton Père. Ferme nos yeux. Que nous aimions le Seigneur dans un choix toujours répété. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Quand des parents choisissent Dieu, la descendance reçoit la bénédiction. Choisis la vie, c'est un choix quotidien, c'est un choix qui va se répéter tout au long de votre vie. Et puis, frères et sœurs, gardons la lampe à nos pieds, la lampe de la parole de Dieu, pour voir si nous sommes toujours sur les trois chemins. Regarde si je suis sur une bonne voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité, disait David. Amen. Que Dieu nous donne de la lumière dans nos yeux, de l'intelligence dans nos pensées, et de répondre avec la parole. On ne s'amuse pas à parler au diable. Je ne parle pas ce personnage, mais quand je lis la Bible, je remets, il est écrit, je remets mes pensées en place. Je les recadre. Elles peuvent parfois dérailler, mais quand je lis « L'homme ne vivra pas de pain seulement », ce n'est pas pour discuter avec le diable, c'est pour que moi, je remette dans ma tête les choses en ordre, en place. Je ne vis pas seulement pour travailler et pour manger et pour jouir des choses de la terre, mais je vis pour servir Dieu et sa parole. Amen. On remet les choses en place. Il n'y a pas de repos sur la terre, mes frères et sœurs. Le diable cherche des occasions favorables pour nous tenter, nous séduire. Il n'y a pas de repos de la foi. On ne peut pas dire « ça y est, je suis arrivé, je me repose ». Mais dans la foi, il y a un repos. Parce que dans la foi, on dit « le Seigneur est avec moi, que peuvent me faire les hommes ? Amen ». Nous avons cette prière que nous disons normalement chaque jour. Ne nous conduis pas dans la tentation. Mais nous y sommes, Seigneur. Nous y sommes tous les jours. Nous y sommes plongés. Chaque jour, il y a un choix à faire. On a parfois des réactions. Toute la nuit, toute cette nuit, il y a des voisins qui ont mis un désordre dans la rue, partout. On n'a pas fermé l'œil de la nuit. Tellement ça a été épouvantable, les cris, ils ont cassé, ils ont fait plein de choses mauvaises. Alors parfois, on voudrait quoi ? On voudrait quoi ? Se venger ? Non. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Amen. Puis voyez-vous, ce matin, alors je n'ai pas fermé l'œil, ce matin, ben, je me sens en pleine forme. Et comme disait un des pères de l'Église, je ne me souviens plus de son nom, il disait « ma prédication me guérit ». Je l'ai expérimenté des milliers de fois, arrivant au culte épuisé. Et au fur et à mesure que la parole est lue et commentée, la force du Saint-Esprit renouvelle nos forces physiques. Amen. Alors ne nous induis pas, ne nous laisse pas, le véritable mot, ne nous fais pas entrer dans les tentations. Ce qui veut dire, retiens-nous, Seigneur. Parce que quand on dit ça, on mesure le danger de la tentation. On ne joue pas avec la tentation. Est-ce que vous iriez jouer avec le lion dans sa cage ? Seigneur, ne permets pas que je rentre dans la cage du lion. Amen. Parce que je ne suis pas sûr de gagner. Je crois même que je vais perdre. Alors, ne me laisse pas entrer dans la cage de la tentation. Ce qui veut dire, si je prends un mauvais chemin, ferme le chemin. Si je prends une mauvaise fréquentation, ferme le chemin. Si je commence à avoir des pensées qui divaguent, arrête-moi, Seigneur. Ne me laisse pas aller plus loin. Mais on y est dans la tentation. Mais il y a celle qui va venir et qui sera la plus grande. Elle va éprouver tous les habitants de la terre. Je ne sais pas comment ce sera. Je ne sais pas ce qui va se passer avant le retour de Jésus. Mais j'imagine qu'il y aura des séparations, des divorces. Les foyers se casseront, les enfants partiront, le mari partira. Ce sera une décadence générale. Et les églises en souffriront. Elles ne pourront plus avancer. Ce sera un temps de tentation extrême. Seigneur, garde-nous dans la tentation. Garde-nous d'entrer en tentation. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions. Éloigne de nos yeux les choses vaines, afin que nous accomplissions tes commandements. Ainsi parlait le psaume 119. Garde-nous dans ce combat que nous menons. Donne-nous d'en avoir conscience, afin qu'on ne prenne pas des décisions hâtives sans te consulter, afin que nous revenions à la raison, c'est-à-dire que nous retrouvions ta parole, ton Église, notre Père, notre Mère, nos frères, nos sœurs. Garde-nous de tous les chemins qui mènent nulle part, où d'autres avant nous sont allés et ne sont jamais revenus. Garde-nous de toutes les voies intérieures qui viendraient du mal. Nous voulons laisser la voix de Dieu parler en nous. Nous voulons qu'elle claironne en nous. Voici le chemin, marchez-y. Ainsi parlait Ésaïe. Sinon, vous iriez à droite, vous iriez à gauche. Et tel chemin paraît droit, mais à son issue, pour terminer, c'est la mort. Garde-nous dans nos tentations, Seigneur. Et permets que nous remettions nos pensées en place. Et si quelqu'un nous en parle un jour, que nous l'écoutions avec sagesse, parce que nos pensées parfois déraillent. Garde-nous dans ce temps où l'Église, toutes les Églises, sont éprouvées. Garde-nous de rechercher le merveilleux, mais plutôt l'obéissance, l'amour fraternel, la compassion dans un monde cassé, brisé, qui attend ton retour. Amen.